RCF.
Vous publiez aux éditions Glénat un très beau livre intitulé « Compagnie des guides de Chamonix, 200 ans d'histoire ». Joël d'Artigues-Pacalais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage qu'on va évoquer au long de ces entretiens, un livre plein d'anecdotes, plein de récits, avec beaucoup de photos également. Et c'est l'occasion, pour commencer ces entretiens, d'expliquer un peu l'origine de cet ouvrage et la façon dont vous vous y êtes pris pour le rédiger et pour compiler cette histoire qui retrace donc 200 ans des compagnies des guides de Chamonix. Quel a été votre désir, votre intention ?
Le but principal, c'était de faire honneur à ces 200 ans, en bonne entente, entre guillemets, avec la Compagnie des Guides, le président et les personnalités qui gèrent la Compagnie des Guides actuellement. Et je voudrais juste préciser tout de suite que ce livre, je ne l'ai pas fait toute seule, mais je l'ai fait avec David Ravanel, guide à la Compagnie des Guides, ancien président et qui est aussi mon fils.
Cet ouvrage, il aborde cette histoire non pas d'un point de vue qu'on pourrait dire strictement universitaire et un peu scientifique, mais vraiment c'est une approche humaine, avec beaucoup de visages, avec beaucoup de vécu et d'anecdotes. Pourquoi ce choix ?
Alors effectivement, c'est l'essentiel de notre volonté, c'est de ne pas refaire l'histoire de la compagnie d'un point de vue administratif ou en tant qu'historien, puisque ça a déjà été fait. Mais par contre, nous avons voulu mettre le point sur des histoires intéressantes, non pas des histoires intéressantes, le mot est mal choisi, des histoires humaines. Le principal objectif, c'était de trouver dans la relation entre le guide et son client, entre les guides entre eux, entre les guides et la compagnie, entre les guides et les gardiens de refuge, de belles histoires humaines et non pas les prouesses techniques ou sportives.
Alors, cette histoire, elle a une particularité, c'est qu'elle s'est vécue dans un décor, et elle continue de se vivre dans un décor, et pas n'importe lequel, la vallée de Chamonix, le Mont Blanc, donc un décor absolument somptueux, celui de la montagne, et j'aimerais que ce décor, vous nous le décriviez un peu, et en particulier cette histoire qui commence à la fin du XVIIIe siècle hein, et qui court tout au long des XIXe et XXe siècles, le rapport à la montagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un lieu qui nous est familier, même si on sait qu'elle présente des tas de dangers hein, et qu'il faut être toujours très prudent. Mais pendant longtemps, ça a été un lieu très inhospitalier, la montagne.
Absolument. Le XVIIIe siècle, la crue glaciaire, la grande crue glaciaire, a eu lieu jusqu'en 1850 à peu près. Donc jusque-là...
Qu'est-ce que ça veut dire la crue glaciaire ?
Les glaciers augmentaient, les glaciers croissaient, les glaciers augmentaient de volume, à tel point que le glacier des Bossons, par exemple, menaçait de traverser la route, donc menaçait de fermer complètement le haut de la vallée à l'aval de la vallée. Et donc les glaciers, la montagne en général et les glaciers en particulier étaient redoutables, puisque le froid, ils apportaient le froid, ils apportaient la pierre, ils apportaient le mauvais temps, le désagréable mauvais temps, grésil, neige, dont on ne parvient pas à
Une
se
vie
débarrasser.
Très rude, quoi.
Très rude, avec des terres stériles et du mauvais temps incessant, la neige tous les mois de l'année ou quasi.
Des avalanches.
Les avalanches, bien sûr. Et donc, pour les paysans, puisqu'on parle de paysans montagnards, la vie était très difficile.
Alors, paysans, ça veut donc dire que, malgré tout, cette région n'était pas désertique du point de vue de la présence humaine. Il y avait bien des gens qui y vivaient. Non seulement ils y vivaient, mais ils allaient en montagne. Et oui. Qu'est-ce qu'ils allaient y faire, finalement ?
Absolument. La vallée est habitée depuis très très longtemps. En tous les cas, les principales sources remontent au Moyen-Âge, où on sait que la vallée était habitée, et par des paysans qui vivaient tant bien que mal, mais plutôt mal que bien, et étaient obligés de chercher des tas de choses annexes pour pouvoir survivre à ces hivers très froids. Donc parmi ceux-ci, on compte les alpages, par exemple. Les alpages, ce sont des herbages d'altitude, des pâtures d'altitude qui compensaient la pâture de fond de vallée que l'on réservait à la fenaison pour engranger pour l'hiver.
C'est-à-dire concrètement, ces paysans qui étaient aussi éleveurs emmenaient leurs troupeaux Donc des quoi, des brebis, des vaches?
Des vaches, des brebis. Au départ, c'était plutôt des brebis, effectivement. La chèvre n'existait pas, ou a existé, mais assez tardivement. C'était plutôt des moutons, effectivement, et des brebis. Puis des bovins, un petit peu plus tard. Le bovin étant un animal, un bétail plus fragile. Et donc, effectivement, ils emmenaient leurs troupeaux en altitude. Tous les alpages se situent, en gros, aux alentours de 2000 mètres d'altitude et permettent, justement, d'économiser, en quelque sorte, le foin de basse vallée que l'on mettait dans la grange, une fois sec, pour subsister pour tout l'hiver.
La suite de l'histoire.
Évidemment, les troupeaux, les alpages, mais aussi des ressources, en particulier le bois.
Le bois, bien sûr, la forêt est omniprésente dans la vallée de Chamonix, sur les flancs de la montagne, enfin, jusqu'à une altitude évidemment maximum, hein, au-delà de 1700-1800 mètres, il n'y a plus de forêt, ou il n'y a plus que des mélèzes ou des arolles, mais l'épicéa est très très présent effectivement. Donc le bois, oui, c'est une ressource à la fois pour chauffer et à la fois pour construire les maisons, ça c'est sûr. Donc l'exploitation du bois était une ressource importante. On verra également la chasse aux chamois, la chasse tout court, et notamment la chasse aux chamois. La chasse tout court, c'est pour tout le monde pareil. La chasse aux chamois a cette particularité que, justement, elle a permis aux paysans de s'endurcir, de grimper sur les sommets, de courir après ces chamois qui courent dans la montagne. Et donc, ça leur a permis de connaître les endroits, de connaître les lieux, de savoir se comporter dans ces lieux, alors encore plus inhospitaliers, et de savoir comment se mouvoir sur les rochers, sur la glace.
La chasse aux chamois, pour quoi faire ? Pour se nourrir, ou parce qu'on en faisait d'autres choses ?
Pour se nourrir. On se nourrissait de tout, et de marmottes qui sont aujourd'hui protégées, de chamois bien sûr.
La faune et la flore
étaient
là.
Et...
Ouais. Vous citez aussi un autre type d'activité, celui qui consiste à aller à la recherche de matériaux précieux. On peut parler des cristalliers ?
On parle des cristalliers. Les cristalliers sont importants et c'est un métier très très ancien, effectivement, qui a concouru également à la formation, entre guillemets, des guides dans la montagne, hein, pour se mouvoir. Les cristaux sont utilisés de longue date à la lustrerie et à la taille. Donc ce ne sont pas des cristaux que l'on met en vitrine comme ça, bruts. Au contraire, ce sont les cristaux les plus limpides qui sont recherchés, puisque on les taille à Milan, à Genève, on les vend très cher. Plus ils sont gros, plus ils sont faciles à tailler. Donc on va chercher des cristaux pour les vendre pour la lustrerie.
Donc on voit qu'il y a quand même un rapport à la montagne qui est basé sur une forme d'utilitarisme et de nécessité, c'est-à-dire qu'il faut survivre à des époques et dans un contexte rude. Ce rapport-là, est-ce qu'il est aussi teinté de croyances, de légendes autour de la montagne ?
Oui, il y avait beaucoup de légendes, parce que la montagne, bon, c'était un milieu qui fournissait quand même quelques avantages, hein. On a parlé des cristaux, de la chasse aux chamois, etc., mais c'est un milieu qui faisait peur. Les légendes sont courantes, d'un glacier qui se transforme en dragon, qui crache des pierres, ce sont des légendes qui faisaient peur. Et au moment de la grande crue glaciaire dont je parlais tout à l'heure, n'oublions pas que les glaciers avançaient tellement qu'ils faisaient peur et qu'on faisait appel aux autorités ecclésiastiques pour venir bénir les glaciers. Les évêques sont venus plusieurs fois pour bénir les glaciers, pour essayer de faire reculer ces glaciers qui avançaient toujours et qui menaçaient de détruire les forêts, les maisons, et qui apportaient que des pierres dans les champs. Donc, c'est pas une bonne idée. La religion était là pour ça aussi, hein, pour rassurer les paysans, pour leur apporter la sécurité dont ils avaient besoin, la sécurité morale, mentale, dont ils avaient besoin, c'est sûr.
Est-ce que c'était une vallée qui était très peuplée au moment qui va commencer à nous intéresser, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle ?
C'était déjà très peuplé, oui. Les premiers recensements, en tous les cas, datent de la fin du Moyen-Âge, 12e siècle environ, et la vallée n'a cessé de se peupler en dépit des difficultés davantage chaque année.
Est-ce que c'était un lieu qui attirait aussi, notamment, alors je ne sais pas si on peut déjà parler de tourisme, même si c'est autour de cette période-là que le tourisme commence à émerger, du fait des Anglais. Est-ce que ça attire notamment des citadins qui viennent séjourner, prendre le bon air ?
Alors, c'est pas ça tout de suite. Ce qui a attiré les premiers visiteurs, hormis les visiteurs pastoraux ou les colporteurs qui passaient l'école pour apporter les denrées, les colifichets, les dentelles et tout ce qu'on veut.
D'où le nom de colporteur ?
Colporteur, oui.
Ouais. Oui. D'accord.
Hormis ces personnes-là qui colportaient également des nouvelles, non seulement des objets, mais aussi des nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles de la vallée de un petit peu plus loin,
des infos, quoi.
Des infos, voilà. Tout à fait. Hormis ces gens-là, les premiers visiteurs, on peut dire, de la vallée, on date ça à 1741 avec Wyndham et Pocock. Ce sont deux Anglais, deux Britanniques qui sont venus par curiosité, on va dire. C'était la curiosité des savants, tout comme de Saussure plus tard, on en parlera, la curiosité des voyageurs qui, depuis Genève, voyaient le Mont Blanc. On voit très bien le Mont Blanc depuis Genève, il est très beau. Et ces glaces éternelles qui ne fondent jamais, il faut aller les voir de près. Ça, c'est une curiosité scientifique. Et en 1741, quand Wyndham et Pocock sont venus, ils sont allés voir la mer de glace. Voilà, ce sont les premiers visiteurs pour la mer de glace. Et déjà, ils avaient embauché des hommes du pays pour les conduire à la mer de glace. On peut dire que ce sont, entre guillemets, les premiers guides à ce moment-là.
Le paysage extraordinaire et à la fois un peu inquiétant, jusque finalement il n'y a pas si longtemps, que vous nous avez décrit, Joël d'Artigues-Pas-Calais, il est évidemment dominé par le fameux Mont Blanc qu'on voit d'un peu partout, qui est absolument fascinant encore pour nous aujourd'hui, et vous l'avez dit, qui commence à attirer. Et notamment, il attire des scientifiques, des gens qui ont envie de comprendre pourquoi ces glaciers sont éternels. Est-ce qu'on peut dire que ce sont eux qui déclenchent ce qui va devenir un véritable phénomène, c'est-à-dire le goût de l'ascension et la nécessité d'avoir des guides ?
Oui, tout à fait. Les savants sont curieux, ça c'est leur nature, partout.
Et à toutes les époques.
Et à toutes les époques. Et donc effectivement, les savants, alors il y a le Genevois Horace Bénédicte de Saussure d'une part, et puis les Britanniques à sa suite, qui sont curieux de connaître cette glace, de connaître ces crevasses, ces racks, de quoi ils sont formés, à quelle température descend la glace, est-ce que c'est la température de la neige, est-ce que c'est la température de l'air ambiant, toutes
plein
sortes
de questions,
d'expérimentations qui sont faites. Et le premier, c'est effectivement Horace Bénédicte de Saussure, qui, depuis Genève précisément, depuis sa maison, voit le Mont Blanc et il a envie d'y aller voir. Donc, dès 1760, le voilà qui arrive à Chamonix. Il voudrait savoir à quelle hauteur se situe le Mont Blanc, à quelle altitude. Comme c'est un scientifique, géologue, etc., les savants de l'époque connaissaient plus de choses. Ils étaient savants de tout. Ils étaient savants de la flore, de la faune, toute discipline, de la glace, de la roche. Voilà. C'est le cas de Horace Bénédicte de Saussure qui arrive en 1760 et qui commence par monter sur les flancs des montagnes. Et il monte au Brévent, à 2500 mètres d'altitude, pour regarder en face où se trouve le Mont Blanc. Et il essaye déjà d'imaginer une route qui conduirait au Mont Blanc, parce qu'il a envie de monter là-haut pour en connaître l'altitude et pour voir ce qui s'y passe.
Je fais une parenthèse, oui. Est-ce qu'on sait si quelqu'un l'avait déjà fait avant ? Est-ce qu'il y a des traces ?
Alors non, de connaissances de bibliophiles, de
personne n'était arrivé au sommet du Mont Blanc ?
Non.
En tout cas, ça n'apparaît nulle part dans les sources.
Non. Le premier qui arrive au sommet du Mont Blanc, les premiers, ce sont Jacques Balma et Michel-Gabriel Paccard qui arrivent au sommet du Mont Blanc en 1786, le 8 août.
On en était là avec Saussure.
Il donne une récompense au premier qui arrivera au sommet du Mont Blanc. Donc Jacques Balma et Michel-Gabriel Paccard y arrivent, mais eux deux, tout seuls, les deux guides. Mais il faudra attendre une année de plus pour que Monsieur de Saussure lui-même y arrive, accompagné d'une quarantaine de personnes qui vont le porter le ravitaillement, porter le matériel, les vêtements, tout ce qu'il faut, les tentes, le bois pour allumer du feu le soir, parce qu'ils vont bivouaquer sur des rochers qui affleurent, qui seront l'endroit futur du refuge des Grands Mulets. Et tout ça se fait seulement l'année suivante, parce que l'année 1786 de la première ascension du Mont Blanc, c'est fini. Ils y sont allés une fois, plus personne ne peut y aller après eux, parce que le mauvais temps arrive, la saison est finie, et ce sera l'année suivante seulement que M. de Saussure reviendra pour essayer de monter lui-même au sommet du Mont Blanc.
Ces deux précurseurs-là, c'est des gars du pays ?
Tout à fait, c'est des gars du pays. Alors Michel Gabriel Paccard est un médecin qui a fait ses études de médecine à la faculté de Turin, puisque la Savoie à cette époque-là est sarde, hein, n'est pas française. Il a fait ses études à l'université de Turin, mais c'est un alpiniste, hein, un très bon alpiniste aussi, mais pas guide. Par contre, Jacques Balma, lui, est plutôt un paysan, chasseur de chamois, cristallier. Il aime bien justement ses métiers annexes et il aimait bien crapahuter dans la montagne tout le temps.
Et ils se connaissent tous les deux. Ils décident ensemble de tenter l'aventure.
Tout à fait.
La récompense est en vaut la chandelle.
La récompense est très importante et c'est Jacques Balma qui va l'empocher. Il y a d'autres personnes qui vont tenter en même temps qu'eux. D'autres personnes vont essayer parce que, évidemment, la récompense est intéressante, est importante. Donc, tous les petits gars qui savent bien monter dans la montagne et qui n'ont pas peur des glaciers vont vouloir y aller également. Ils vont être assez nombreux à tenter leur chance.
Mais ils vont échouer ? Ou bien les deux premiers seront les plus rapides ?
Les deux premiers seront les plus rapides, les autres seront laissés en cours de route. Et voilà, c'est les deux premiers. Et Jacques Balma empochera la récompense tout seul, puisque son compère, Michel-Gabriel Paccard, va la lui laisser.
Est-ce que on peut dire qu'ils ouvrent la voie, dans tous les sens du terme ?
Oui, bien sûr. Non seulement ils arrivent les tout premiers au sommet du Mont Blanc, c'est vrai, mais ils ont, en parvenant au sommet, ils ont aussi vaincu beaucoup justement de peurs dont on parlait, les peurs ancestrales, la peur de passer la nuit sur le glacier, la peur de l'altitude. Il y avait des tas de croyances. On disait que si on passait la nuit, on allait s'endormir et ne plus jamais se réveiller. Le corps se refroidissait sur un glacier. Bon, c'est logique, mais c'est un phénomène qui faisait peur. Le cœur augmente en pulsation cardiaque. Ça fait peur aussi parce que on s'endort mal, on n'arrive pas trop à s'endormir, mais en même temps, le froid endort. Et donc, il faut pas s'endormir non plus.
Donc, il désamorce en fait un peu toutes ces croyances. En revenant, on voit bien que tout ça est...
Que c'est possible. Que c'est possible, qu'on peut y aller et en revenir. C'est tout à fait important.
Et donc, évidemment, quand on parle d'ouvrir la voie, il y a aussi la voie, le chemin, quoi. C'est-à-dire trouver le passage
absolument,
qui permet
absolument.
Vraiment d'arriver en haut.
Et du reste, ce chemin, cette route qu'ils ont ouverte, elle sera utilisée encore pendant près d'un siècle, avant qu'une autre route soit trouvée. Celle-ci, elle va continuer à être valable.
De l'histoire.
Quelle différence y a entre les alpinistes et les guides ? Vous avez dit tout à l'heure que c'était des alpinistes, mais pas encore des guides.
D'un point de vue sémantique, un guide, c'est celui qui conduit. L'alpiniste, il peut aller tout seul en montagne ou avec un ami, et voilà, ils sont tous les deux et ils vont se balader en montagne. Le guide conduit quelqu'un.
Et donc il est payé pour ça.
Et donc il est payé pour ça. Et à partir de là, l'activité de guide devient un métier.
À partir de quand ?
Ça s'est fait progressivement, je pense, parce que la saison d'été est très courte, à Chamonix notamment. Hein, c'est 3 mois normalement sur le calendrier aujourd'hui. Dans la vallée de Chamonix, c'était 1 mois et demi, pas beaucoup plus. Hein. Les alpages, par exemple, on laissait les bêtes à l'alpage. La moyenne de la saison en alpage, c'était 40 jours, 50 jours, pas plus. Et il fallait vite, vite redescendre les troupeaux parce que la neige arrivait. La saison de guide moyenne, à la même époque, au même moment, c'est la même. Une fois que le mauvais temps revient, dès la fin août, c'est fini et on ne peut plus aller en montagne. Donc, on ne peut pas se contenter de ce seul
revenu.
Voilà. Mmh. Et pendant encore très très longtemps, les guides ne feront de leur métier de guide qu'un deuxième métier. Ils auront, pendant tout le 19e, toute la première moitié du 20e siècle encore, un deuxième métier, un métier principal. Et paysan surtout, paysan, avant d'être guide.
Et pourquoi est-ce qu'ils deviennent guides l'été ? C'est très lucratif ? Ou c'est par goût ? Ou les deux ?
Les deux, alors les deux, on va dire les deux. C'est vrai que c'est lucratif, c'est de l'argent pas facilement gagné, je dirais, mais vite gagné quand même. Un Mont Blanc avec... au début du XXe siècle, avec le prix d'un Mont Blanc, on pouvait acheter une vache.
Le prix d'un Mont Blanc, donc
oui.
Le prix d'une,
oui.
D'une ascension.
C'est ça, oui. Donc c'est beaucoup, mais c'est aussi beaucoup de dangers, beaucoup de risques.
Et est-ce que...
Les accidents, ils sont nombreux, toujours, ils sont encore nombreux, hein, il ne faut pas l'oublier.
Il y a des familles de guides ? On se transmet, on en reparlera peut-être, mais déjà à cette époque-là, on se transmet ce goût-là et puis cette connaissance-là ?
Oui, bien sûr. Ce métier, cette activité, ce métier est tel qu'il attire les jeunes. Et les jeunes connaissent très très bien la montagne et commencent très tôt à aider les adultes. Les garçons, par exemple, dès 10-12 ans, sont rentourneurs. Un rentourneur prend les mulets sur lesquels sont montés, ont été juchés les clients qui ont fait l'excursion, par exemple, à la mer de glace. Les rentourneurs prennent les mulets à vide, les redescendent dans la vallée et remontent de l'autre côté du glacier pour récupérer les clients qui, pendant ce temps-là, ont fait la traversée du glacier. Donc ça, c'est ce métier-là.
Il faut être jeune et
ils
agile.
Sont très jeunes. Ils sont très jeunes et très agiles. Et ils n'ont pas peur non plus du bétail, qui est quand même un gros bétail. Hein. Un mulet, un cheval, c'est quand même un gros bétail. Ils n'en ont pas peur, ils y sont habitués. Et par ce métier, par cette activité qui est lucrative également, ils prennent goût comme ça tout doucement à la montagne et prennent goût aux clients également. Après être rentourneurs, ils font porteurs, c'est-à-dire que au-delà de ce qui peut être porté à dos de mulet, c'est eux qui le portent à dos d'homme. Par exemple, les vêtements, la nourriture, par exemple le matériel des scientifiques, ils ont toujours de très lourdes charges en appareils photo, en appareils de toutes sortes, en appareils de mesure de toutes sortes.
C'est ce qu'on appelle les Sherpas dans d'autres,
absolument.
Sous d'autres latitudes.
Absolument, absolument. Mais c'est aussi une école, c'est aussi un apprentissage du métier, de leur métier futur. Et comme ça, de génération en génération, on a aujourd'hui à Chamonix des familles qui comptent 6 générations successives de père en fils depuis
guides.
La création de la Compagnie des Guides.
Joëlle d'Artigues-Pas-Calais, on a parlé donc de ces guides qui commencent à avoir une activité assez régulière. Pour qu'il y ait activité, il faut qu'il y ait clientèle. Il faut que des personnes payent pour entreprendre l'ascension du Mont Blanc. Alors peut-être pas jusqu'en haut à chaque fois, je ne sais pas, vous allez nous dire. Mais qui sont ces clients généralement ?
Alors les clients sont au départ des aristocrates. Hein. Des aristocrates britanniques pour beaucoup, allemands un petit peu, américains ensuite. Mais les premiers, ce sont des britanniques. aristocrates parce qu'ils ont l'argent pour venir déjà, pour se promener, pour venir. Et ils sont aventuriers aussi en même temps. Ils ont le goût de l'aventure, ils ont le goût de l'exploration. Ce sont eux qui ont exploré d'autres continents, hein, l'Afrique et d'autres continents. Donc, dans la même veine, on peut dire, ce sont ces clients-là qui viennent. Alors, je voudrais dire tout de suite qu'on ne les appelle pas clients. Le mot client n'est pas un joli mot et n'est pas très, très employé par les guides. On les appelait des alpinistes, bien sûr. On les appelait des excursionnistes quand ils n'allaient pas très loin. On les appelait des explorateurs, peut-être. On les appelait surtout, en patois, monchus, ce qui veut dire monsieur, un terme qui est aujourd'hui un petit peu galvaudé, mais en fait qui était très respectueux. Moi, je dirais que ce sont essentiellement des amis pour les guides. Dans notre livre, nous avons mis l'accent sur justement cette relation tellement belle, tellement chaleureuse, qui peut exister entre un guide et son client, puisqu'on dit client maintenant. Il faut savoir que déjà, ils partent en voyage pendant très très longtemps. Ils se côtoient parfois pendant plusieurs semaines. Chaque année, ce sont les mêmes qui reviennent pour faire à nouveau d'autres explorations. Donc, année après année, ils deviennent vraiment amis.
Et ouais. Puis, ce qui les réunit, cette expérience-là, elle est quand même pas banale. On suppose que ça crée des liens très étroits parce que c'est riche en émotions.
C'est riche en émotions, c'est riche en partage de difficultés, en partage de dangers aussi. L'un étant responsable de l'autre, mais l'autre responsable de l'un également, c'est vraiment un partage. Ils se connaissent très bien, le guide sait parfaitement de quoi est capable son client ami, et l'ami est parfaitement au courant des possibilités techniques et physiques de son guide.
Et lui fait confiance.
Et il lui fait confiance, il y a une confiance réciproque tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que je dis que ce sont plus qu'une relation, en tous les cas pas une relation commerciale, même s'il y a de l'argent derrière, mais c'est une relation d'abord amicale.
La suite de l'histoire.
Quand vous dites qu'ils partent, ils partent pour combien de temps et quelles sont les formules possibles ?
Alors, les clients britanniques, comme j'ai dit, ce sont des aventuriers. Donc, ils viennent voir un petit peu ce qui se passe dans le massif du Mont-Blanc, mais ils explorent toutes les Alpes et même au-delà. Donc, ils vont aussi bien dans les Alpes suisses, dans les Alpes autrichiennes. On a, par exemple, François de Voissou, qui est un guide qui part avec son client Freshfield, donc écossais, je crois. Qui part pendant des années au Caucase. Ils vont faire l'ascension du mont Elbrus, donc qui est le maintenant, aujourd'hui, puisque cette montagne est dans l'Europe, ce qui est maintenant le sommet le plus haut de l'Europe, l'Elbrus. Par exemple, Michel Croz, avec Whymper, passera toute sa vie avec Whymper jusqu'à son fatal accident au Cervin. Mais il y avait une amitié entre ces deux-là, c'est vraiment extraordinaire, alors qu'ils ne parlaient pas la même langue. Puisque l'un était anglais et l'autre français, les guides essayaient de parler l'anglais, mais à l'époque, ils n'allaient pas à l'école très très longtemps non plus. Mais l'amitié était fabuleuse. Et je cite Michel Payot, qui est parti aussi avec son guide Eccles dans les montagnes rocheuses, donc en Amérique. Et les exemples sont nombreux.
Ils ne se contentent pas de la vallée de Chamonix ou de ses alentours. Ils peuvent aller très loin ensemble, d'où effectivement l'amitié que vous avez soulignée.
C'est ça.
Il y a des femmes, déjà parmi la clientèle, et puis après parmi les guides, on n'en a pas parlé de ça.
On n'en a pas parlé. Alors les femmes, oui, bien sûr. Alors, je recommence. Oui et non, les femmes alpinistes, oui, il y en a eu pas mal. On les cite, hein, les meilleures, Meta Brefort, on cite bien sûr Henriette d'Angeville, on cite bien sûr Isabella Stratton, qui ont été les premières à ascensionner le Mont Blanc. Henriette d'Angeville a été la première femme au sommet du Mont Blanc en 1836. Isabella Stratton a fait la première hivernale avec son guide qui deviendra son mari également dans ces mêmes années.
Décidément, ça crée des liens.
Et c'était en hiver. Voilà. Et maintenant, on a des femmes guides. Et la compagnie des guides est fière d'avoir intégré des femmes guides, dont on parle aussi, bien sûr, dans le livre. Sylviane Tavernier, qui a été la première à intégrer la compagnie des guides, et les deux plus jeunes, là, qui sont actuellement Fanny Schmutz et Fleur Fouque, qui sont de très grandes alpinistes, toutes les trois. Voilà.
Quand vous avez dit à Dodane, ça veut dire qu'on peut aussi grimper comme ça, par ce moyen-là, ou bien à un moment donné, il faut quand même descendre de l'âne,
quoi. À d'autres mulets. C'est le mulet qui est un bâtard entre l'âne et le cheval. Hein. Effectivement, qui est l'animal de trait favorisé par les montagnards parce qu'il s'adapte très très bien à la montagne. On voit des mulets partout, y compris aujourd'hui au Chili ou dans ces zones-là. C'est toujours le mulet qui est l'animal le plus résistant, le plus pratique pour la montagne.
Et donc, il porte le matériel et puis les personnes aussi de temps en temps.
Il porte d'abord le matériel, mais pour les excursions, avant que Chamonix s'équipe en remontée mécanique, eh bien, c'est le mulet qui transportait ces dames jusqu'à la mer de glace ou jusqu'à la Flégère où la vue est si belle ou jusqu'au Brévent où la vue embrasse comme ça tout le massif. Voilà, donc il y a une belle organisation aussi avec les mulets, puisque il y avait dans la vallée de Chamonix jusqu'à 300 mulets en été pour conduire ces messieurs dames. Alors jusqu'à une certaine altitude, on est d'accord. Au bout d'un moment, le mulet n'y va plus, donc si on veut continuer,
prendre il faut son courage voilà. Et y aller à pied. Alors Joël d'Artigues-Pas-Calais, le matériel, aujourd'hui, ça nous laisse un peu perplexes parce que quand on voit les progrès qui ont été faits en matière de matériaux utilisés, de qualité des chaussures, de carbone un peu partout, à la fois léger et très solide, quel était le matériel dont disposaient ces guides et leurs clients pour faire ces ascensions-là ?
Le matériel, c'est en termes de matériel, comme dans tous les domaines, c'est le matériel que l'on a à la maison que l'on utilise d'abord. Donc on utilise les cordes en chanvre dont on se sert pour les foins, pour s'encorder, pour monter en montagne, parce qu'on n'a rien d'autre que ça. On utilise les chaussures à clous que l'on a à la maison pour monter en montagne, parce qu'on n'a rien d'autre que ça à la maison. Et petit à petit, les cordonniers vont se mettre à faire des chaussures un petit peu plus rustiques, un petit peu plus solides, avec le cirage, avec enfin toutes sortes de matériaux, jusqu'à ce que, pour finir, on en arrive aux matériaux d'aujourd'hui, des matériaux beaucoup plus sophistiqués, mais jusque dans les années 50, 60 même, on avait toujours affaire à des chaussures en cuir. Alors d'accord, on avait inventé les semelles Vibram, qui portent le nom de leur inventeur, pour glisser moins et pour remplacer les clous. Mais c'est à peu près tout. On utilisait les espadrilles pour aller dans des escalades rocheuses pures. On mettait les espadrilles en corde, hein, les espadrilles de...
Celles qu'on connaît encore aujourd'hui,
du
là.
Sud-Ouest, oui, tout à fait. Pour monter sur les rochers non enneigés, les rochers secs. Mmh. Mais donc, on avait les espadrilles dans le sac que l'on pouvait changer. Et ça.
Et pour lutter contre le froid ?
Pour lutter contre le froid, la même chose. On utilise beaucoup la laine, puisqu'on a ça à disposition. On a les filatures de C qui fournissent le drap de C. C'est une espèce de feutre, moitié laine, moitié lin, je crois.
Imperméable,
très feutré justement, donc très imperméable. On utilise des grands chapeaux, on utilise de la suie, on n'a pas de lunettes de soleil contre les rayons du soleil, le rayonnement pour se protéger les yeux. On se noircit le visage de suie pour éviter le rayonnement. Ouais. On met des petites voilettes éventuellement quand on en a. Enfin, c'est les moyens du bord. Ouais. Quoi. C'est comme ça qu'on peut expliquer les divers accidents qu'il y a eu. Les alpinistes qui sont revenus de montagne avec de belles ophtalmies, il y en a eu beaucoup, avant que l'on trouve un moyen de lutter contre l'ophtalmie.
C'est-à-dire les yeux brûlés par le soleil.
Les yeux brûlés, oui.
Finalement, c'est la demande et les besoins qui ont entraîné l'amélioration de tout ce matériel, et puis que des artisans ont répondu à ces besoins, c'est essayer de comprendre comment améliorer les choses.
Tout à fait, c'est comme pour le ski, c'est comme pour, pour tous les domaines, la voile, tout ce qu'on veut. C'est au fur et à mesure, on trouve le matériau qui est le plus adapté, qui est le plus léger, qui est le plus imperméable, qui est le plus chaud.
Et du coup, etc. Ça favorise un commerce aussi.
Oui, forcément, les magasins de sport, bien sûr, les fabricants sont plutôt en ville, sont un petit peu dans la vallée. Il y a les forgerons qui se transforment et qui, au lieu de fabriquer des outils pour les champs, vont fabriquer des piolets, par exemple. Ils s'adaptent effectivement à cette demande. Ils fabriquent des crampons, ils usinent des crampons. Ils vont usiner des mousquetons plus tard. Les entreprises Simon ou Charlet vont finir par devenir des fabricants de matériel de montagne vraiment. Mais petit à petit, tout ça, ça s'est fait petit à petit, effectivement, en fonction des matériaux aussi. L'alliage, par exemple, pour un mousqueton, qui est un alliage très léger, voilà, il n'est pas venu tout de suite non plus.
D'Artigues-Pas-Calais, vous êtes l'auteur avec David Dravanel d'un ouvrage paru chez Glénat qui s'intitule Compagnie des guides de Chamonix, 200 ans d'histoire. Il y a un anniversaire à la clé là?
Oui, bien sûr. Donc la Compagnie des guides a été créée en 1821, voilà donc 200 ans, bicentenaire d'une belle histoire, une belle compagnie.
Ça répondait à quoi la création de cette Compagnie des guides?
Alors la Compagnie des Guides est née en 1821, premier règlement 2 ans plus tard seulement, mais il fallait à un moment donné mettre de l'ordre dans l'organisation de cette activité, de cette nouvelle activité qui chaque été foisonnait à Chamonix.
Mettre de l'ordre, c'est-à-dire
qu'il y avait du désordre. C'est-à-dire que c'était assez désordonné. Les clients arrivaient, bien sûr, donc tout le monde se précipitait pour avoir un petit bout du gâteau, bien entendu, c'était logique. On avait des voituriers qui arrivaient de Sallanches, voire de Genève, avec de la clientèle. On avait quelques hôtels qui avaient déjà ouvert leurs portes et qui étaient là, prêts à recevoir cette clientèle pour la loger. Et puis on avait des guides, et puis on avait un tas de gens qui nous demandaient qu'à travailler avec cette clientèle. C'était une manne considérable pour les paysans que constituait la population de Chamonix. Et donc, on faisait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, aussi bien, un portier d'hôtel aurait bien voulu, en tous les cas, emmener des clients visiter la mer de glace ou des choses comme ça.
Donc, il s'agissait aussi d'assurer une sécurité et une réglementation de cette activité.
Il fallait réglementer l'ensemble de l'activité pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'ordre aussi, pour des raisons de bienveillance également à l'égard de la clientèle. La clientèle était harcelée par des tas de gens qui venaient proposer leurs services. On avait aussi les petites paysannes qui venaient proposer un panier de myrtilles ou un verre de lait à tous les gens qui se baladaient sur les sentiers. Donc tout ça finissait par être assez désagréable pour tout le monde. Et il fallait absolument mettre de l'ordre à tout ça. Là-dessus, en 1820, un accident sur la route du Mont-Blanc avec le docteur Hamel, ce qu'on a appelé la caravane Hamel. 3 guides disparaissent, meurent dans une crevasse, sous une avalanche qui les emporte dans une crevasse, lors de cette ascension avec le docteur Hamel. 3 morts, les autorités et les guides ont dit stop, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça parce que les guides ne sont pas en sécurité, les clients ne sont pas en sécurité, ils sont harcelés, bref, il fallait mettre de l'ordre. D'où la création par la Compagnie des guides, entérinée bien sûr par l'autorité de tutelle qui était l'intendant. Encore une fois, on était sous régime sarde, donc c'était l'intendant de Bonneville, supervisé par le gouverneur d'Annecy, qui était l'autorité de tutelle pour légiférer, entre guillemets, sur cette création.
Alors, qu'est-ce que ça change? N'est pas guide qui veut, il faut avoir une autorisation pour se déclarer guide, il faut avoir suivi une formation ou avoir fait ses preuves.
Il faut avoir fait ses preuves, tout à fait. Donc, les guides se connaissent un petit peu entre eux. Donc, il y a une première liste d'une quarantaine de noms qui est établie pour l'intendant de Bonneville et qui est devenu l'intendant de Bonneville. Cette liste sera augmentée au fur et à mesure que les guides qui souhaitent faire partie de la compagnie se montreront capables de le faire.
Compétents.
Mmh. Voilà.
Ça réglemente aussi les tarifs pratiqués ?
Tout à fait, ça réglemente les tarifs, ça réglemente le fait de partir ou de ne pas partir, de continuer quand le mauvais temps arrive ou de ne pas continuer. Il y a des tas de choses qui sont comme ça, prises en considération. On a aussi des choses inattendues, comme par exemple la messe du dimanche. Le guide doit aller assister à la messe du dimanche avant de partir.
Pour s'assurer que tout se passera bien.
Voilà.
D'accord. La bénédiction n'est pas de trop, là, quand
non,
on part en montagne comme ça.
Oui,
d'accord.
Voilà, ouais.
Mais cette création des guides de Chamonix, elle fait l'unanimité ? Parce que vous parliez de toutes ces petites gens qui profitent aussi de l'arrivée de ces touristes argentés, oui, et qui peut-être ont vu d'un mauvais œil le fait que désormais on leur interdise de vendre leurs myrtilles ou leurs boissons.
On crée des choses un petit peu annexes, des métiers un petit peu annexes. On créera, par exemple, pour le verre de lait et le panier de myrtilles, on créera les crèmeries, ce qu'on a appelé les crèmeries ou les pavillons, c'est-à-dire des petites structures en bois toutes simples le long des chemins où effectivement la famille untel a le droit, là, cette
de
fois-ci,
vendre.
De vendre.
Et le client s'arrête s'il le souhaite.
Et le client s'arrête s'il le souhaite, mais il n'est plus harcelé tout le long du chemin. Voilà. On créera aussi, par exemple, les rentourneurs, ce dont on parlait précédemment.
Mm-hmm.
On créera également le porteur, ce dont on parlait également précédemment. On créera le muletier attaché à un service avec le mulet pour conduire et du coup il fait ses preuves également. Il prouve qu'il a un mulet qui n'est pas une vieille carne qui rue tout le temps et qui va mettre par terre son cavalier et que lui sait conduire sa monture.
Et tout le monde est référencé comme ça.
Voilà, c'est plus ordonné et c'est plus viable de cette façon.
C'est aussi une manière de s'assurer que la sécurité est respectée, hein, vous l'avez dit, parce que les accidents non seulement sont possibles, mais ils ne sont pas rares. Du coup, est-ce que ça permet d'organiser d'éventuels secours ou d'anticiper des tragédies, quoi ?
Tout à fait. Dès la création de la compagnie des guides, dispose d'un guide-chef. Le guide-chef est donc un genre de président, on dirait président pour une association, qui est vraiment l'autorité pour les guides, c'est-à-dire que tout doit passer par lui. Les clients qui souhaitent aller au Mont-Blanc, par exemple, viennent demander leur course à ce guide-chef, qui organise, et ça c'est le plus important dans l'histoire, une des choses les plus importantes dans l'histoire, le guide-chef organise à ce moment-là un tour de rôle, c'est-à-dire une distribution équitable du travail, chacun son tour. Celui qui a eu une course le jeudi, le vendredi, ce sera le suivant qui pourra partir en montagne avec le client et ainsi de suite. Et ce tour de rôle qui date du début est toujours en vigueur et existe toujours et fonctionne toujours très très bien aujourd'hui, 200 ans plus tard.
Et alors pour les secours justement, comment ça marche ?
Alors pour les secours, c'est la même chose, c'est le guide-chef. Dès qu'il a une information d'une cordée qui se trouve mal, évidemment, il a les références des guides qui sont autour de lui et il va évidemment faire appel à ces guides qui sont libres et organiser une caravane de secours. Et ça c'est pareil, c'est une organisation qui existe depuis le début. Les guides portent secours à leurs collègues qui sont en difficulté dans une paroi ou sur un glacier. Et abandonne tout pour aller au secours de ce guide qui est dans une situation difficile. Les caravanes de secours se constituent immédiatement.
Il y a eu des sauvetages qui sont restés dans les annales comme ça ?
Oui, il y en a eu beaucoup. Ces caravanes de secours ont même fonctionné ensuite depuis les refuges. Le gardien de refuge était forcément un guide et il était responsable à partir de son refuge à 2800 mètres, en gros 2007-2008. Tous les refuges sont à peu près à cette altitude-là. Le gardien de refuge avait autorité pour organiser depuis son refuge déjà une petite caravane de secours en attendant que ceux de la vallée viennent lui prêter main forte.
Ça pose quand même la question de cette fréquentation de la montagne. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on se demande quelquefois si les gens n'exagèrent pas un peu en tentant des ascensions pour lesquelles ils sont manifestement pas toujours préparés. Est-ce que ça a pu susciter de la colère parmi les habitants, par exemple, de voir ces gens venant de la ville ?
Oui, le guide qui part en course, de toute façon, c'est jamais anodin. Une course, c'est toujours important moralement pour le client. De toute façon, c'est sûr, c'est une petite aventure en soi, même si la course est facile. Mais pour le guide également, c'est jamais rien, une course. Effectivement, les clients qui partent tout seuls ont certainement posé problème à beaucoup. Mais les guides, disons que les clients amateurs qui partaient tout seuls, c'est relativement récent quand même.
D'accord. Pendant longtemps, on a préféré être accompagné d'un guide.
Tout à fait.
Ceci dit, plus ça va et moins les raisons qui poussent à partir en montagne comme ça, à faire cette ascension, elles sont motivées par des raisons scientifiques. C'est plus de l'agrément ou une envie d'aventure, non ?
Il y a quand même encore beaucoup de scientifiques qui travaillent sur les glaciers. On a énormément de glaciologues, on a énormément de géologues encore, modernes, jeunes aujourd'hui, qui travaillent là-dessus. On a énormément de gens qui travaillent sur la neige, sur le ski de pente raide, qui travaillent sur le permafrost, qui travaillent sur ces choses-là.
Et au début du 19e, ou tout au long du 19e, on va dire, les raisons scientifiques, elles continuent d'être parmi celles qui
motivent. Il y a des modes, effectivement.
Qui donnent envie de partir.
Voilà, il y a des modes. Il y a eu la mode des scientifiques, effectivement, les savants dont on parlait précédemment. Et puis, on a eu ensuite d'autres modes. On a eu l'âge d'or de l'alpinisme, par exemple. Le but, c'était de conquérir les sommets, tous les sommets. Donc, chaque fois qu'il y avait une pointe qui n'avait pas été gravie, hop, il fallait monter dessus. Et puis ensuite, on a eu la mode des pentes raides, des voies les plus difficiles. Donc, on a fait le couloir Wimper à l'Aiguille Verte, qui est un couloir prestigieux. Donc, on avait le premier qui était arrivé, il avait gagné. Et ainsi de suite. Et c'était des motivations plus sportives, plus techniques et sportives que scientifiques, on va dire. À chaque fois, chaque décennie ou chaque période correspond à quelque chose d'autre. On a maintenant, par exemple, aujourd'hui, les pentes raides. Donc, on a beaucoup de guides, jeunes guides, qui sont des adeptes des pentes raides, des pentes à ski très raides, à descendre à ski très raides, et qui ont de la clientèle pour ça aussi.
À la recherche de sensations fortes dans ce genre d'exercice.
Tout à fait.
Joël d'Artigues-Pacalais, la compagnie des guides de Chamonix donc a 200 ans. Est-ce que c'est aussi une façon de préserver le métier que de créer cette compagnie et d'en avoir assuré la pérennité ? Elle existe toujours aujourd'hui.
La compagnie des guides existe toujours aujourd'hui. Elle fait beaucoup d'envieux chez les jeunes qui sortent de l'ENSA, de l'École nationale de ski et d'alpinisme, avec le diplôme de guide en poche. On voit à chaque cérémonie du 15 août la remise de médailles de guide aux nouveaux guides donc, qui ont réussi le diplôme et qui ont fait la demande à la compagnie et qui sont reçus. On voit bien la fierté dans leurs yeux, dans leurs regards.
Donc c'est assez prestigieux que d'être admis dans cette compagnie.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça reste prestigieux, ça reste des instants très émouvants de ces remises de diplômes et ces remises de médailles. On leur épingle la médaille et c'est vraiment quelque chose de très très important, je pense, pour eux.
Ça reste un métier saisonnier ?
Ça reste un métier saisonnier par la force des choses. Ça a été à un moment donné un métier presque annuel avec le ski et le ski alpinisme. Ça reste difficile maintenant de perdurer sur toute l'année avec ce seul métier, avec le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement.
On va en reparler dans un instant, mais est-ce que les années 60, où vraiment la pratique du ski a commencé à exploser, on a vu apparaître des stations de ski, et les sports d'hiver ont vraiment se sont répandus, ça a marqué un tournant, d'après vous, dans la manière d'envisager le rapport à la montagne ?
Je crois pas. Je crois pas. Le ski et la montagne sont deux choses différentes. Et les métiers, il y avait des moniteurs de ski et guides de haute montagne, c'est vrai, qui pratiquaient les deux métiers en complément, l'hiver et l'été. Mais je pense qu'on a affaire à des clientèles différentes, fondamentalement différentes.
Il y a quelque chose de plus consumériste, d'après vous, dans le ski ?
Sans doute, sans doute. C'est la facilité, c'est on se laisse aller, on descend, c'est plus simple. Je ne parle pas du ski alpinisme, hein, je parle vraiment de la descente sur piste. Oui. C'est plus simple, c'est plus facile. La montagne, l'alpinisme, c'est quelque chose de plus difficile, où il faut vraiment s'investir soi-même, investir son corps, investir ses capacités à monter. Rien n'est donné, il n'y a pas de cadeau, on ne peut pas tricher. On est capable de monter ou alors non, mais si on n'est pas capable, personne ne va tirer pour vous faire monter.
C'est une école d'humilité, la montagne.
C'est une école d'humilité, c'est bien se connaître également, savoir où sont ses propres limites, je peux, je ne peux pas. On ne peut pas tricher, ça c'est sûr. Mais c'est une école de la contemplation aussi, ça on n'en a pas parlé, mais la contemplation c'est aussi une des motivations assez extraordinaires pour les amoureux des beaux paysages, des belles montagnes. C'est fabuleux, les couleurs, les formes, les arcs-en-ciel, les nuances, c'est en montagne qu'on les trouve. Et pas ailleurs.
Et il y a des artistes qui sollicitent les guides à
oui,
travers l'histoire.
Tout à fait.
On en voit peintres, ou musiciens,
oui.
Ou poètes.
Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on avait le grand peintre Gabriel Lopé, par exemple, qui marchait avec un guide qui s'appelait François Coutet et qui allait au refuge des Grands Mulets à 3500 mètres d'altitude pour peindre justement.
Poser son chevalet.
Poser son chevalet au propre, ouais. Et pour peindre ces fabuleuses couleurs, ces fabuleuses formes, ces glaciers extraordinaires. Et puis on a eu beaucoup de photographes également, hein, qui ont fait de si belles photos de montagne, les générations de Terrasse, Coutet, toutes ces générations-là qui ont fait des photos extraordinaires. La première photo du Mont Blanc faite par Terrasse, c'était 1862 quand même.
Il fallait un guide
aussi. Voilà. Lui-même était guide, mais il fallait tout un attirail avec lui pour porter justement les liquides, les plaques de verre qui étaient des grandes plaques de verre de 30 cm de côté. Enfin, voilà. Il fallait. C'est pas possible d'y aller seul et c'est pas possible de photographier les choses que l'on voit depuis le bas. On ne voit pas les mêmes choses quand on est en montagne, au sommet.
La suite de l'histoire.
La crise écologique dans laquelle on est plongé, vous pensez qu'elle est en train de modifier le travail des guides et le rapport à la montagne et la demande des clients ?
La demande des clients, je ne crois pas. Je crois que cet amour des sommets, même s'il n'y en a plus aucun vierge, en tous les cas pas. On adapte. La compagnie des guides, c'est comme les guides en général, hein, s'adaptent, hein, aux conditions. C'est vrai que Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la saison c'est courte. La saison, disent les guides, devrait pouvoir commencer plus tôt. Mais il faut changer le calendrier scolaire pour ça. Et la saison des guides devrait commencer en juin, plutôt que de commencer en août, plutôt que juillet, et se terminer un peu plus tôt pour profiter justement, pour que chacun puisse profiter des conditions de début de saison qui sont bonnes, alors que la fin de saison, au mois d'août, quand le soleil a déjà bien réchauffé les parois, là les conditions d'ascension deviennent plus difficiles et plus dangereuses. Alors oui, il faut une adaptation bien sûr.
Alors, je vais peut-être poser une question qui fâche, mais je la pose quand même. Est-ce que la fréquentation, quand même assez soutenue, de ces lieux et de cet écosystème qui est quand même très fragile, n'a pas contribué à le dégrader ?
Ça, c'est difficile à dire. Je ne crois pas que quelques montagnards qui crapahutent sur un glacier soient responsables du réchauffement climatique quand même. Je pense qu'il y a... autre chose, je crois pas.
Il y a toujours eu le souci de préserver cet environnement-là.
Oui, de toute façon. C'est leur outil de travail, donc oui, bien sûr.
Et la fonte des glaciers, le fameux glacier dont on mesure chaque année un peu plus le recul, c'est quelque chose qui probablement a un impact sur cette activité.
C'est assez catastrophique, non pas qu'on puisse plus marcher sur le glacier, même s'il a fondu, s'il a rétréci. L'accès est toujours le même, mais le paysage, la vue que l'on en a, le paysage que l'on en a...
est modifié complètement.
N'est
quoi.
Plus le même, bien entendu. Les beaux glaciers, il faut aller les chercher plus loin, plus haut. C'est plus difficile et c'est surtout plus dangereux au fur et à mesure que l'été avance et que le permafrost, disent les spécialistes, hein, je n'en suis pas une, le permafrost se réchauffe, donc les cailloux ne tiennent plus puisque les rochers tiennent par le gel en profondeur. Et voilà, donc les chutes de pierres sont beaucoup plus importantes.
Aujourd'hui, il faut compter combien de temps pour faire l'ascension du Mont Blanc? Alors, on va compter le départ et puis le retour, parce qu'il faut bien redescendre.
Il faut bien redescendre. Je crois que là, je ne suis pas guide non plus, donc je parle sous réserve qu'on me confirme. Le Mont Blanc le plus habituel aujourd'hui consiste à faire les trois Monts Blancs, ce qu'on dit les trois Monts Blancs. Donc, on part du refuge des Cosmiques et on va jusqu'au sommet et on revient ou on redescend par l'aiguille du Goûter. La nuit en refuge est indispensable, je pense, au refuge des Cosmiques, et toute la traversée, et il faut la journée entière du lendemain avant d'être redescendu dans la vallée.
Donc 2 jours,
voilà,
à peu près
2 jours.
Et ça s'est beaucoup réduit par rapport à ces hommes dont vous nous avez parlé au tout début de ces entretiens, ces deux premiers aventuriers à avoir réussi cet exploit que sont Balma et le docteur Paccard.
Alors, je ne crois pas que ce soit beaucoup réduit, sauf que on a beaucoup plus de facilité. Par exemple, on monte en téléphérique jusqu'au refuge des Cosmiques. Alors pour l'alpiniste moyen, ça n'a pas réduit. Pour l'alpiniste sportif, oui, ça s'est beaucoup réduit, puisque les premiers ont fait l'aller-retour en 24 heures ou à peu près, en gros, et qu'aujourd'hui, on fait l'aller-retour, les plus rapides font l'aller-retour en moins de 5 heures. Église de Chamonix, retour, aller-retour.
Et pourtant, la passion reste intacte. Hein.
La passion reste intacte et reste intacte, je pense, pour tout, c'est la compagnie des guides, malgré les difficultés, malgré les changements climatiques, la compagnie des guides a dû toujours s'adapter et continuera à s'adapter, forcément.
Un très grand merci, Joël Dartigues-Pacalet, d'être venu nous parler de cette compagnie des guides de Chamonix qui fête ses 200 ans cette année. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru chez Glénat, qui s'appelle donc « Compagnie des guides de Chamonix ». C'est un livre que vous avez écrit avec quelqu'un que vous connaissez bien, hein, qui n'est autre que votre fils, David Ravanel. Encore un très grand merci à vous. Je recommande à nos auditeurs la lecture de cet ouvrage. Il y a plein de photos, plein d'anecdotes.
C'est ça. Ce sont essentiellement des anecdotes, en fait, des histoires de guides, en fait. Des histoires avec un S, du coup.
Donc c'est très vivant. Merci à vous.
Merci.